France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Marion Muller-Collard. Alors j'ai lu L'Ordre des Choses et ça a été un vrai coup de cœur, ou plutôt un vrai coup de poing. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner son père qui va peut-être partir et surtout se retrouve très fragilisé? Votre écriture est très sincère et moi c'est ça qui m'a énormément touchée.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On a beau débattre d'importantes lois éthiques sur la fin de vie, donner des avis éclairés sur certains dossiers, connaître en théologienne de nombreux textes discutant du sens de la vie, lorsqu'un soir quelqu'un vous attend, livide, au bout d'un couloir pour vous annoncer que votre père a été victime d'un très violent AVC, qu'il en est réchappé mais considérablement diminué, l'on redevient la petite fille transie de peur devant la possibilité de la perte. Dans son dernier livre, L'Ordre des Choses, Marion Muller-Collard relate les jours suspendus qui suivent l'accident vasculaire cérébral de son père, l'ampleur intime et nouvelle des questions qui la bousculent, mais aussi le secours de reconnaître dans la foule d'autres fils, d'autres filles, d'autres chagrins silencieux en miroir. L'autrice est notre invitée. Ensuite, et comme chaque semaine, nous parlerons littérature jeunesse, aujourd'hui avec la journaliste Raphaël Bott. Elle nous emmène au pied des montagnes, dans un pays en guerre nommé Parallélogramme. On est ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Marion Muller-Collard.
Bonjour Marie Richeux.
Votre récit L'Ordre des Choses a paru chez Sabine Vespizer, éditeur. Bienvenue à vous dans le Book Club.
Merci.
Ici, on commence toujours par évoquer le rapport de nos invités au livre et à la lecture. Il se trouve, et on y viendra tout à l'heure bien sûr, que votre livre, votre propre livre, se termine par le souvenir ou l'évocation des lignes d'écolière d'écriture dans une très belle scène qui relie l'écriture, vous, et un geste fait par votre père. Peut-être ça peut nous permettre d'aller vers non pas l'apprentissage de l'écriture, mais celui de la lecture. Est-ce que ça vous a laissé des bons souvenirs?
J'ai pas, enfin, paradoxalement, plus de souvenirs du début de l'écriture que du début de la lecture. Je me suis d'abord vue écrire, et je sais très bien comment ça a commencé, mais je me suis pas vue commencer à lire. Par contre, ce que je sais, c'est que pendant longtemps, la lecture avait pour moi une fonction de distraction. Je la rangeais du côté de l'histoire, en fait, de l'histoire racontée. Et c'était en fait une façon de pouvoir me passer d'un adulte qui normalement me racontait l'histoire. Et là, il y avait une autre médiation possible et donc plus de liberté, plus d'accès à l'histoire. Et puis, il y a eu une bascule en sixième. Avec Le vieil homme et la mère d'Hemingway. Et là, je suis passée de la lecture à la littérature. Ça a été vraiment cette bascule où tout à coup, c'était plus tellement l'histoire qui comptait, en fait. C'était ce pouvoir des mots de créer jusqu'à un paysage, en fait. Et c'est pour moi vraiment le moment du passage. Je crois que j'ai compris ce que pouvait être la littérature. Mmh. Voilà. Plus qu'une histoire.
Oui, il est beaucoup question du pouvoir des mots, de leur rôle, de la manière dont ils sont tantôt déboués, tantôt d'autres choses d'ailleurs dans votre vie, Marion Muller-Collard. Vous diriez que ce qui se noue à ce moment-là dans le passage à la littérature, c'est quoi comme rapport aux mots?
C'est ce pouvoir de contourer, je sais pas. De créer, de faire exister, en fait. Moi, je suis théologienne de formation et donc bibliste, et je suis toujours fascinée de cette histoire-là. Qu'on choisisse, enfin, si on s'imagine que quelque chose comme Dieu existe et qui crée le monde, on aurait pu imaginer qu'il procède de mille manières. Il procède par les mots, en fait. C'est ce qui rend mon attachement à ce texte viscéral. Et en fait, c'est le mot fait a le pouvoir de fonder le monde, quoi, pas de le défaire aussi. Mmh. Mais je trouve ça fou, cette contourer. Je crois que ça n'existe pas comme verbe. Mais moi, c'est un verbe qui est important pour moi.
C'est border, oui.
Oui, ça borde. Et donc, ça sépare aussi. Mmh. Il y a ce rapport aux mots comme ce qui sépare, en fait. Et c'est toute l'ambivalence aussi de ce lien aux mots. Parce qu'une fois que les choses sont dites, elles sont plus autres que la façon dont elles sont dites. Donc, voilà, c'est, oui, le mot, ça a un pouvoir incroyable, quoi.
Oui, vous rappelez que vous êtes théologienne de formation, vous êtes docteur, et il y a quelque chose dans aussi la fréquentation de ces textes sacrés qu'on sent en filigrane dans votre livre. À aucun moment, vous ne vous y référez comme quelque chose qui vous pourrait faire absolument loi, mais simplement c'est là.
Oui, ça n'a jamais fait absolument loi
voilà,
pour
exactement,
moi.
Mais c'est là, en revanche. Et ce serait là à quel titre la lecture de ces textes sacrés ou la lecture de la Bible?
Alors, au titre aussi de la littérature, c'est-à-dire je suis rentrée... Mais comme je suis rentrée dans l'écriture, moi, c'est une mise en bouche. C'est-à-dire, j'ai commencé... En fait, quand j'ai commencé à écrire, je dirais que je savais pas encore manier un stylo, surtout que ça a été très compliqué pour moi parce que je suis gauchère. Donc, j'ai écrit à l'envers. Enfin, voilà. Mais j'ai commencé par la bouche et je sais, quand je fais des ateliers d'écriture, des rencontres avec les enfants, ça les fascine, en fait, cette histoire de... comme si écrire était un geste. Et en fait, c'est un geste qui commence avant le geste et qui commence dans la bouche. Et je me revois sur mon petit muret, enfant, à mettre des mots en bouche, à essayer. Je suis fascinée par le babil des bébés. cet essai de faire le monde avec sa bouche, quoi. Et la Bible, ça a été pareil. Ça a été des textes que d'abord, avant d'y entrer par une autre dimension qu'on peut appeler la foi. Et je pense que c'est pour moi, c'est indissociable de l'aspect littéraire. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, la Bible, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Et ce qui est génial, c'est que vous avez plein de versions de la même histoire. Et donc ça, de voir se côtoyer en un seul volume, plein de versions, et de qui recrée du coup une lame d'air dans notre rapport à ce qu'on appelle la vérité, l'exactitude, le réel. Ça, je trouve. Enfin voilà, pour moi, c'est une aventure. C'est la foi en fait est aussi une aventure littéraire.
Quoi. Et de lecture finalement, de lecture, de relecture.
Ouais, de lecture et de relecture et. Et je pense en plus qu'il peut beaucoup apporter aujourd'hui dans une société très qui s'est fait un peu matrixer par Platon, quoi. Et l'idée, je pense qu'on s'est fait matrixer par Platon. Et en fait, cette
qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça?
Mais c'est l'idée que le monde sensible serait de séparer le monde sensible avec le monde des idées. Et en fait, la littérature, c'est un grand mélange de tout ça. Et de pouvoir refaire de la pâte à patouille avec le sensible, l'idée, et de plus être dans cette espèce de hiérarchie en fait des modes de parler, de réconcilier ça, pour moi c'est important. Et la Bible par rapport à ça a pas du tout. C'est ce qui est le drame avec le fondamentalisme, c'est de penser que la vérité c'est le réel quoi. Et donc il y a un autre rapport à la vérité et puis un rapport très joueur à l'intérieur d'un même texte. Vous avez un auteur qui s'immisce, qui arrive, qui défend une autre théologie. C'est cousu de fil blanc, mais il s'en fiche parce qu'il cherche pas à être crédible en fait. Il cherche la discussion quoi. C'est une grande agora littéraire où en fait. Et ça, c'est une pensée qui nous vient de la culture juive. Et je trouve qu'on a un peu perdu cette perspective d'essayer de prendre un temps de parole au milieu d'une grande conversation. Mmh. C'est ça que j'aime dans la Bible. Voilà. Bon.
Est-ce que vous avez grandi dans un endroit où il y avait des livres?
Oui, les livres, c'était pas quelque chose de complètement central et je sais pas si j'ose dire que c'est pas non plus central dans ma vie.
Bah, j'espère que vous pouvez dire.
Je peux dire, je suis un peu complexée de ça. Je suis complexée aussi parce que souvent quand j'entends des écrivains, ils ont tous une liste de lectures d'enfance. Moi, en fait, même encore aujourd'hui, si tant qu'il fait jour et soleil, je vais sortir, en fait. Donc, je vais lire quand il pleut, je vais lire... Voilà, j'ai un métier qui m'amène à beaucoup lire et j'en suis très reconnaissante, mais voilà, c'est pas une totale obsession, quoi. Et donc, c'était pas une obsession chez moi non plus.
Dans votre famille, vous voulez dire, dans votre
dans ma famille, ouais. Oui, je pense que je suis la plus lectrice... De nous quatre, de nous quatre de la famille d'où je viens et de nous quatre de la famille que j'ai créée avec mon mari, là, je suis largement la plus lectrice.
C'est vrai. Vous avez été membre du comité consultatif d'éthique de 2017 à 2022. Est-ce que c'est une période où il y a eu des lectures importantes pour vous, Marion Muller-Collard?
Hannah Arendt, oui, restée Hannah Arendt parce que, moi, je suis toujours un peu amatrice de tout. Hein. Je picore beaucoup, donc je prétends pas du tout être spécialiste. Mais il y a une pensée chez Arendt qui m'a...
Vous êtes quand même
je vous rappelle, docteur, quoi.
Ouais,
vous n'êtes pas totalement amatrice de tout, quoi.
Vous n'étiez pas à ma soutenance.
J'étais pas à ma soutenance, j'avoue. Peut-être que c'était vraiment n'importe quoi.
Ils ont gratifié mes qualités rédactionnelles et l'originalité de ma pensée, mais je sentais que l'académie ne se mettait pas tout à fait au rendez-vous. Donc,
En tout cas, Hannah Arendt, pour une raison très
simple. Hannah Arendt, parce que... C'est cette idée de la pluralité, en fait. Et moi, quand je suis arrivée au CCNE, je me sentais pas hyper légitime. On le comprend quand on lit le livre aussi, parce que j'ai ce complexe un peu de transfuge de classe. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Et donc, au début, j'osais rien dire. J'avais une peur bleue de dire des bêtises. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, tu es là. Donc, parle. Et pas, non pas que t'aies quelque chose de plus intéressant que quelqu'un d'autre à dire, mais c'est le rôle de la pluralité, en fait. Et ça, Arendt, elle m'a beaucoup aidée à assumer ça, qu'en fait le monde est ce qu'il est parce que nous sommes plusieurs et que ce qui est à préserver à tout prix c'est la diversité, c'est la biodiversité humaine, et qu'à ce titre on peut jamais se tromper parce que on a notre petite partition à jouer, notre voix à porter au nom de la diversité, pas au nom d'une excellence, quoi.
Il y a un livre qui a été publié par la maison d'édition que vous dirigez désormais, Labor et Fide, à Genève, qui s'appelle « Croire, qu'est-ce que ça change ?» et c'est toute une collection « Naître, qu'est-ce que ça change ?» en tout cas c'était celui que moi j'avais lu, mais et où vous répondez à votre fils, un texto envoyé à 1h08 du mat.
Oui, on n'a pas le même biorhythme. Ouais.
Qui vous dit « Mais je comprends pas, comment tu peux encore être angoissé parce que tu crois ?» Et puis vous décidez de lui répondre par un livre, oui, en vous excusant dans le début de l'adresse, en disant « Bon, peut-être que c'était pas la manière la plus simple de te répondre, mais voilà, je vais te répondre en écrivant. » Et cette réponse prend la forme d'un livre. Est-ce que vous pensez que les livres sont des bonnes formes de dialogue entre les êtres ?
Oui.
En dehors de celui-ci, je veux dire. Je m'appuie sur celui-là parce que c'est un exemple.
Eh bien, oui, mais pour... Je vais aussi m'appuyer sur celui-là pour vous répondre. C'est qu'en fait, il y a une forme de pudeur entre mon fils et moi qui fait que cette conversation, je ne sais pas si on aurait été à l'aise de l'avoir en face à face. Et pour moi, là où les livres sont une occasion de rencontre à nul autre pareil, c'est qu'ils permettent une rencontre très forte, très intense, très intime, très de cœur à cœur, sans pour autant imposer une présence physique de l'autre et sans pour autant venir perforer la solitude. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de solitude, et donc ce que j'adore dans le livre, c'est qu'il me permet à la fois d'être seule à plusieurs. Et ce que je trouve aussi génial, et ce qui permet d'ailleurs de beaucoup dire, de beaucoup oser dans la littérature, c'est qu'en fait l'autre a une liberté, vous le coincez pas en fait, vous n'êtes pas en train de le coincer dans un dîner mondain à faire une grande voilà, un grand discours qui lui cloue le bec, ou qui l'oblige à répondre, ou qui l'ennuie, ou un livre, on peut le jeter, on peut le fermer, on peut ne pas le finir, et donc moi j'adore cette équipe. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut ressembler à ça, enfin
pas grand-chose en vrai.
Pas grand-chose en fait, voilà. C'est ça, c'est le livre, vous pouvez être seul à plusieurs.
Dans votre livre, L'ordre des choses, qu'on va évoquer dans un instant, vous citez au moins deux poètes, que sont René Char et Rilke. Mmh. Est-ce que ce sont des auteurs qui vous accompagnent en particulier?
Je picore, donc je n'ai exploré l'œuvre ni de l'un ni de l'autre, mais Rilke a joué un rôle vraiment important pour moi avec les lettres aux jeunes poètes, bêtement quoi, quand.
Mais comme initiation.
Oui, comme initiation. Ouais, vraiment. Je pense que il est venu me mettre des mots sur ce qui poussait en moi par rapport à l'écriture depuis longtemps, et en fait c'est un classique que je trouve indémodable. Ouais, vraiment. Et puis René Char, c'est plus des aphorismes, qu'il y a toujours une phrase qui... voilà, c'est plus par bribes. Et oui, c'est un poète important pour moi. Je l'ai mis en exergue d'un de mes romans. Enfin, c'est une langue que j'aime et qui roule un peu comme ça, comme... Ouais.
On va parler de votre dernier livre juste après ce tube que Laurie Anderson fait paraître en 1981. Au Superman, inoubliable chanson aux 150 battements par minute fredonnée sans fin, c'est un appel téléphonique obsédant, c'est une main tendue, c'est une étreinte électronique tantôt rassurante, tantôt omnisciente et inconsciente et inquiétante. Petit chef-d'œuvre d'un peu plus de 8 minutes qu'on a légèrement coupé pour l'occasion. Au Superman, au Judge, au Mom and Dad.
Oh Superman, oh John, Jama. Want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I got a message to give to you.
Tu le sais que ces choses-là arrivent. Ce coup de fil, tu l'attends depuis toujours. Tu l'attendais déjà enfant. Tu ne fermais pas l'œil tant que tes parents n'étaient pas rentrés. Loin de toi, ils étaient fatalement morts. Il a fallu grandir pour décorréler l'absence et la mort, projeter l'absent ailleurs que dans un tombeau. Tu as grandi. Tu as l'âge où le coup de fil qui te rendra orpheline fait partie de ce qu'on nomme l'ordre des choses, selon une sagesse populaire vouée à amortir les chocs prévisibles. Un airbag sémantique. Alors on répète, pour se gainer, c'est dans l'ordre des choses. Pour rester digne et droit, répondre d'un sourire brave aux poignées de mains chaleureuses, aux condoléances et aux accolades pudiques, que voulez-vous ? C'est dans l'ordre des choses. Pourtant, lorsque le coup porte, si prévisible, tu en conviens, tu t'effondres instantanément. Il te jette à terre, comme une déflagration. Il désagrège toutes tes conquêtes d'émancipation, tu dégringoles en chute libre la toise de tous les âges. Une part de toi regarde sidérée l'enfant hurlante qui tape du pied, vautré au sol, joue rouge, barbouillé de morve et de larmes, répétant dans un cri accéléré « Pas mon papa, pas mon papa, pas mon papa, pas mon papa ». C'est le tout début de votre livre, Marion Muller-Collard, « L'ordre des choses », paru aux éditions Sabine Vespizer et au programme du Book Club de France Culture. On en parle avec vous. Je le disais tout à l'heure, les mots sont très importants dans ce livre et vous y revenez à plusieurs reprises, à la valeur qu'ils ont, à la prudence qu'il faut avoir avec eux, à la manière de les manier, à la possibilité d'en prononcer certains et d'autres. Comment avez-vous trouvé ce titre, « L'ordre des choses » ?
Je ne sais pas si je me souviens. Je me souviens que mon titre d'écriture n'était pas le bon, et ça, c'est normal. Je pense que ça s'est imposé de façon un petit peu fulgurante, parce que tout le jeu du texte, c'est justement cette tension permanente entre le fait que oui, c'est dans l'ordre des choses.
Chronologique, on pourrait dire.
Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est toujours un texte aussi sur le temps, comme la plupart des textes que j'écris. Et il y a cette effraction, en fait, et ensuite ce dédoublement de l'enfant de 5 ans avec qui il va falloir continuer à vivre, à cohabiter. Et donc.
Qui est vous?
Oui.
Oui, c'est juste.
Oui. Voilà, c'est. Il y a quelque chose à la fois de cynique dans le titre, parce que je passe mon temps à redire avec mon père que l'ordre des choses fout quand même un sacré bordel. Et en même temps, bah oui, c'est vrai, c'est l'ordre des choses.
Et en même temps, il y a beaucoup de désordre dans ces choses, et notamment de désordre dans les générations. Vous racontez comment la survenue de ce très violent AVC d'un seul coup vous oblige à devenir quelque chose qui serait comme la mère de votre père. De la même manière, vous dites aussi que mettre au monde est un événement assez comparable avec celui de perdre le père. Alors, en l'occurrence, vous ne le perdez pas, mais vous avez cette peur-là, en permanence, qui est là. Qu'est-ce qui se bouscule ou se rejoue? Qu'est-ce qui tourne boule dans les générations à l'occasion de cet événement-là?
Je crois qu'en fait, le souci, c'est justement que l'ordre des choses nous porte vers ce moment où effectivement nos parents vont diminuer et où on va devoir leur rendre le soin qu'ils ont pris de nous. Mais il y a une résistance. Il y a une résistance. C'est Freud qui disait en fait que le temps n'est pas une réalité psychique.
Et je bats contre ça.
J'ai jamais autant repensé à ça. Le temps n'est pas une réalité psychique. Et en fait, on arrive au monde complètement voué à ces deux personnes qu'on trouve absolument toutes puissantes et qui le sont de fait sur nos vies. Et je crois qu'on n'est jamais prêt à les faire descendre de leur piédestal. On joue ça à l'adolescence, de façon un peu maladroite parfois, mais en tout cas, on a besoin de jouer ça, de rentrer dans l'art et de dire, mais en fait, ils sont pas non plus si extraordinaires que ça. Et en même temps que toutes ces étapes se passent, ben, y a cette immuabilité de l'enfant de 5 ans qui continue à... Il y a une réserve d'enfance, en fait, qui se tient à carreau et qui garde, en fait, ce regard ébahi qui est, en fait, le premier regard qu'on a porté sur deux êtres humains dont on allait dépendre quand même énormément. Et ce qui est fou, c'est ce réveil, quoi. C'était volcanique, le réveil de l'enfant dormante.
Qui crie quoi? À l'injustice? Qui crie à l'inquiétude?
Qui crie « pas mon papa ». C'est vraiment ça. Et ce que je trouve joli, c'est de se rendre compte que on est pris dans nos fonctions sociales. Et heureusement, je trouve très bien qu'on ait nos rôles à jouer. Et ce que je trouvais joli tout le temps de l'écriture de ce texte, c'était de deviner derrière les fonctions sociales des gens que j'avais à croiser. De par ma
Quel enfant de 5 ans
sociale.
Était en train de gueuler.
Voilà, mais ça, pour moi, de toute façon, c'est un critère quasiment d'amitié et de confiance. C'est que j'ai toujours besoin d'arriver à entrevoir dans le visage de quelqu'un et son attitude. J'ai besoin qu'on puisse deviner l'enfant qu'il a été. Sinon, ce sont des gens qui me font peur. Quand on n'arrive pas à voir l'enfant...
Pourquoi ça vous dit quoi quand vous réussissez à voir l'enfant?
Ça me dit que tout n'est pas foutu. Et c'est quelque chose que je dis dans le livre aussi, c'est qu'au final, moi, ça m'a fait... Enfin, cet enfant de 5 ans que j'ai dû gérer un peu péniblement, bah, en fait, c'était aussi ma force, mon allié. C'est notre réserve de sensibilité. Moi, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je suis dure à cuire, quoi. Enfin, il y a de la cuirasse, quoi. Il y a le cuir qui s'épaissit et je suis pas sûre d'aimer ça. Et donc, ce rappel de la pure sensibilité. Et je le raconte à un moment donné, puisque j'essaye de voir à quel moment les choses ont commencé à tourner avant l'accident, les prémices. Et je raconte ce moment où j'arrive chez mes parents et que je vois un calendrier de chiens d'aveugle. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'imagine mon père, cette personne qui sonne, et mon père qui s'attendrit pour les chiens d'aveugle, pour les aveugles, pour la dame qui sonne, je n'en sais rien. Et je me souviens que moi, en fait, quand j'étais petite, dès que j'étais devant le Téléthon, j'allais donner tout mon argent de poche. Enfin voilà, j'ai été cet enfant-là. Et aujourd'hui, je suis une adulte terrible, toujours pressée, qui, quand elle croise quelqu'un qui a froid dans la rue, détourne son regard, parce que bon, elle a une vie importante, elle n'a pas le temps, elle peut pas non plus. Voilà. Et je suis pas sûre d'aimer être cette pure adulte. Donc, je suis pas sûre d'aimer qu'on tourne tous adultes à ce point. Et donc, je trouve que dans la
ça vous a rassuré finalement de voir débouler une enfant inquiète et à ce point chagrinée?
On a dû s'organiser, elle et moi. Mais, mais quelque part, oui, heureusement. Et ça me rassure chez les autres de me dire qu'en fait, il y a encore quelque chose d'enfantin dans l'émerveillement, dans la tristesse, dans le chagrin, la capacité en fait d'être dans l'émotion immédiate, d'avoir peur aussi. Et ça m'a... Voilà, c'est venu... Il y a un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Suivant et qui parle de l'importance et de l'inimportance. Qui dit, en fait, il faut qu'on, voilà, quand un homme s'est trouvé, quand il a trouvé son importance et son inimportance, alors il devient libre, insolent et amical. Et je crois que la part d'enfance contribue en fait à savoir jouer avec cette importance et cette inimportance. Et il y a quelque chose de ça dans ce texte, de cette dissociation entre.
D'ailleurs, peut-être que cette part que vous faites ou ce mouvement peut-être qui est créé dans vos mains à l'instant quand vous parlez, Marion Muller-Koller, ça laisse aussi dire le jeu qu'il reste ou l'espace qui reste pour avoir parfois un trait d'humour ou parfois un sourire au moment où tout semble aller à volo. Je pense à une scène que vous racontez où vous êtes obligé de nourrir votre père à la cuillère. Comme ça arrive dans beaucoup de situations où le corps de la personne qu'on aide, qu'elle soit âgée ou pas, est tellement diminué qu'on ne peut pas faire autrement. Et vous lui dites, ouvre la bouche, je ne ferai pas l'avion, c'est ma limite.
Oui.
Alors je ne sais pas si cette scène a eu lieu. Tout cas, c'est un mot d'esprit qu'il y a entre vous et qui montre qu'il y a quelque chose qui peut encore sourire, quoi.
Oui. Alors, c'est une culture de famille. Mais c'est vrai que l'humour, c'est une lame d'air, en fait. Et comme l'écriture d'ailleurs, l'écriture c'est ce qui fait décoller, ça recrée de l'air en fait, et la lecture aussi, donc tout ce qui peut faire décoller un peu ce sentiment d'amalgame lourd du réel en fait, et c'est ça la culture en fait, tout simplement, et l'humour est pour moi la forme la plus aboutie de la culture, et c'est vrai que mon père aussi, aussi diminué soit-il, par bonheur, il y a quelque chose qu'il a gardé, c'est le langage et c'est l'humour. Dernièrement, je le poussais dehors pour qu'il aille fumer sa clope et on croise une dame qui lit le journal et il me dit, écoute, tous les jours, elle lit la rubrique nécro pour voir si elle est pas dedans. Et donc voilà, il est capable d'avoir des traits d'esprit comme ça, incroyables, et c'est vrai que ça nous relève. En fait, c'est quelque chose qui nous relève et l'humour, oui, moi, je pense que c'est fondamental.
Alors, qu'est-ce qu'il vous restait comme outil pour faire face à la réalité que cet homme avait été sauvé? Vous dites au médecin, donc vous êtes intervenu. Oui. Et revient la formule, puisque vous parlez du langage de votre père, ne pas faire chier l'ancien, c'est-à-dire comprendre, ouais. Ne pas intervenir. Il y a quelque chose qui est aussi vertigineux d'emblée dans la situation dans laquelle se retrouve votre père, c'est qu'il vous met face aux très grandes questions éthique que vous avez eu à débattre en siégeant dans ce conseil d'éthique. D'un seul coup, est-ce que ce que vous avez brassé comme grande conversation dans les hautes sphères de l'État vous aide un certain secours, Marion Muller-Koller?
Oui et non. Je saurais à peine répondre à cette question, en fait. Mais disons que, comme moi, au CCNE, j'étais un peu nobody, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. J'étais nommée au titre de mon appartenance. C'est quoi la formule aux grandes familles religieuses et spirituelles, philosophiques et spirituelles. Bon, très bien. Donc, j'étais d'emblée du côté de la littérature, de l'histoire, en fait, des histoires qu'on se raconte aussi, parce que la religion, c'est ça, c'est une histoire qu'on se raconte. Donc, et j'étais entourée de juristes, de médecins. On n'a pas du tout les mêmes langages. Et les mêmes rapports au monde, d'où cet intérêt de la pluralité, en fait. Mais du coup, j'étais pas tout à fait dupe de ce jeu d'essayer de border des questions qui, en fait, n'ont pas de réponse. Il n'y a pas de réponse possible à ces grandes questions-là. Donc, peut-être ce qui m'a aidée, c'est d'avoir jamais été tout à fait dupe de mes propres avis, de mes propres opinions. En revanche, c'est vrai que peut-être d'avoir dû jouer ce jeu, de rendre des avis, de les rédiger.
Concrètement quoi, sur des dossiers concrets?
Oui, voilà, au CCNE, on est saisi par des ministères, des fois on s'auto-saisit. Enfin, moi, j'étais rédactrice d'un rapport. C'est pas du tout la même forme d'écriture, en fait. C'est pas du tout la même fonction d'écriture. Et ce que je trouve génial avec la littérature, c'est que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de dire quelque chose. Et ça, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène incroyable. Pour être parfois obligée, dans mes fonctions sociales, l'avoir été par le CCNE ou à d'autres moments, de vouloir précisément dire quelque chose et essayer de faire passer un message, j'ai cette poche d'air, en fait, ce troisième poumon de la littérature. En fait, je ne veux rien dire. Et donc, voilà, de sortir du registre de l'opinion, sur ces grandes questions-là, de sortir du registre de l'opinion. Et ça, pour moi, c'est plutôt la littérature, cette autorisation à écrire qui m'a été... qui a été salvatrice pour moi, plus que le fait d'avoir brassé et rebrassé ces questions, parce qu'en fait, elles sont brassables à l'infini.
Un jour, dans cette grande période-là, vous tendez l'oreille, c'est à la radio, c'est sur France Culture, et il y a une voix qui, justement, vous attrape, précisément parce qu'elle n'assène rien, précisément parce qu'elle prononce des mots nuancés, les mots d'oscillation, et c'est celle de Régis Aubry, on la réécoute.
Moi, je crois qu'on aura toujours du mal à aborder la question de la fin de la vie, et plus encore celle de la mort, tout simplement... Parce que ça ne peut pas être une expérience. Personne n'en est revenu pour en témoigner. Et je pense que c'est ce qui fait la difficulté d'appréhender cette question. Il y a une dimension d'un déni collectif autour de cette réalité. Et puis, je reviens sur cette exigence de modestie qu'il faut avoir vis-à-vis des souffrances en fin de vie. Je trouve quand même que se positionner de façon binaire, en pour ou contre, que ça soit autour de la sédation, pour une évolution éventuelle du droit, c'est être bien sûr de soi, me semble-t-il. Dans mon expérience de médecin, confronté à des demandes d'aide active à mourir, j'étais impressionné de voir comment, plus on avançait, on se rapprochait de la mort, plus il y avait parfois une oscillation autour du désir et de la volonté. Il faut donc savoir respecter cette ambivalence ultime.
C'est la voix de Régis Aubry qui siégeait donc avec vous au CCNE, médecin, qui est aussi à l'Observatoire de la fin de vie, qui demande à ce qu'on soit modeste et proche de l'oscillation. Comment est-ce que ça s'est exprimé, ce mouvement-là de l'oscillation, ce beau mot qui est utilisé par Régis Aubry, dans l'expérience que vous relatez dans l'ordre des choses, Marion Muller-Collard? Dans quelle situation concrète, par exemple, vous avez vu les choses osciller?
C'est une oscillation permanente et qui n'est pas terminée. C'est d'être capable d'accueillir la profonde contradiction. C'est-à-dire, en fait, déjà la contradiction première de surtout pitié qu'il meure et pitié qu'il ne meure pas.
Et votre père, donc.
Oui. et en fait, c'est d'être prise dans quelque chose qui ne peut pas se résoudre, en fait, et qui nous tient à la fois écartelés, et c'est-à-dire de lâcher du lest sur l'écartèlement, en fait, et de se dire c'est ok. C'est ok d'avoir un fou désir de le revoir et une folle angoisse de le revoir et de se dire qu'il risque d'avoir des séquelles incroyables. Et de prendre, en fait, et de prendre ce qui arrive, y compris dans tout ce que ça remue de honte, de culpabilité, c'est ce qui rend du coup à la fois un texte très cru.
Oui, vous parlez d'élan meurtrier au moment où on répond à un coup de téléphone en se disant j'espère que ça s'arrête enfin.
Oui.
Et vous parlez quatre lignes plus tard, en effet, de cette personne qui est vous et qui a tellement envie de revoir son père. Et les deux cohabitent.
C'est ça. Et en fait, c'est là où je dis aussi que par rapport pauvre Platon, mais cet enjeu de vouloir catégoriser, en fait. Je crois qu'on est un petit peu malade et l'opinion, la maladie de l'opinion, elle vient aussi de ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache ce qu'on pense sur plein de choses. C'est pour ça que ça m'a fait tellement du bien de réentendre Régis Aubry, qui j'ai passé des moments forts au CCNE autour de toutes ces questions. En fait, c'est vrai que c'est très frustrant quand on est en plus en interview de devoir dire je sais pas, bon, mais est-ce qu'on a le courage d'accueillir ça? Et c'est là où justement la littérature est un espace qui permet d'aller à ces endroits-là. Et puis c'est.
Mais est-ce que ça permet pas ça, Marion Muller-Collard, parce que ça vient tout près du singulier, du cas par cas, de une seule histoire, un seul être. C'est-à-dire que là où la loi, les conversations à l'échelle de la société que vous deviez porter devaient peut-être statuer pour plusieurs, pour tous, pour toute une société. Et là, vous vous approchez d'un seul être. Prenons un cas concret. Par exemple, votre père, avant qu'il lui arrive cet accident, était du côté de ceux qui disaient « me faites pas chier ». Ne me sauvez pas, ne me réanimez pas. Bon. Et quand vous approchez de lui et vous lui dites qu'est-ce que tu veux, il peut dire un steak frites.
Oui.
Il peut vouloir très très fort vivre. Il peut vouloir très très fort entendre quelque chose, une chanson. Et donc vous voyez tout vaciller et vous vous demandez par exemple que reste-t-il de la volonté de ce qu'on a dit avant d'être atteint quand on est atteint. Vous regardez tout ça quoi devant vous.
Ouais, mais justement, oui, moi j'avais. J'avais jamais été trop dupe des ce qu'on appelle les directives anticipées, parce qu'en fait il n'y a pas d'anticipation, justement parce que on est pris dans un bouillon de vivre, on se connaît pas soi-même non plus, on ne sait pas comment on va réagir, et c'est, pour moi l'idée de la directive anticipée, je la trouve très bonne, je la trouve excellente, elle est rationnelle, elle est rassurante, ce serait tellement super quoi, on aurait tous nos directives anticipées et tout le monde saurait exactement ce qu'il faut faire dans tel et tel cas. Mais en fait d'abord les choses ne se passent jamais, voilà, il y a quelque chose de l'imprévisible et de la surprise qu'on est pour soi-même aussi, et de l'inimaginable, et c'est en fait tout le temps être dans une capacité d'accueil de cet inimaginable qui tout à coup arrive, et de pas, je pense qu'on irait tous mieux si on n'essayait pas de faire rentrer ce qui arrive dans une case qu'on est capable de penser.
Oui, vous
mais plutôt d'inverser, de se dire en fait ce qui arrive va me faire penser autrement. C'est le syndrome de la belle-sœur de Cendrillon. On essaye toujours de faire rentrer le pied dans une chaussure. On a décidé que le pied devait rentrer dans cette chaussure-là. Mais en fait, non. Et il faut jouer avec ça. Et c'est là où ça demande, bah, des fois, de rester sidéré. Je suis restée sidérée très longtemps. Je suis un petit peu moins aujourd'hui.
Mais devant quoi, par exemple, à un moment donné, vous dites, moi, ça me crève les yeux de constater de mes yeux la volonté de vivre d'un corps.
Ouais,
exemple.
C'est ça. Mais parce que, effectivement, moi, j'ai tellement entendu mon père me dire, mais on est tous entourés de gens qui nous disent jamais ça, le jour où je suis comme ça, je t'en supplie, tue-moi. Et puis voilà, moi, de temps en temps, ça arrive encore aujourd'hui, ou quand il a des phases vraiment très difficiles de prise de conscience d'une situation, ou de chagrin, d'angoisse, je lui dis très sereinement, je lui dis, mais papa, si tu veux, arrête de manger. Et puis moi, je te prends à la maison, on regarde par la baie vitrée ensemble jusqu'à ce que ça s'arrête. Je prends un congé sans solde, je te tiens la main. Il me dit non, quand même pas. Je dis, si tu veux encore un steak frites, eh bien on continue avec le steak frites. C'est voilà, donc on est tous ambivalents en fait. Moi, j'ai tenu en me disant en permanence, je n'aurai que deux mots, ambivalence. Voilà, c'était ma blague qui me faisait rire toute seule pour tenir le cap.
J'avoue, elle est drôle.
Voilà.
Est-ce que ça vous a fait revoir aussi votre propre rapport à la vie ? À qu'est-ce que c'est que d'avoir envie de vivre ?
Alors, moi, j'ai été aumônier d'hôpital, en fait. Donc, j'étais pasteur en milieu hospitalier pendant une petite dizaine d'années. Donc, cette ambivalence-là, je la connaissais. Là, elle est venue me chercher dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Mais
vous savez qu'on est ambivalent et qu'on est plutôt en zone grise quand on s'approche de la fin, quoi.
Ouais. Je sais que faut pas faire de gros plans sur qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, et que c'est toujours surprenant et que c'est pas toujours horrible d'ailleurs. Ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être, et puis c'est pas toujours horrible pour tout le monde de la même manière. Voilà. Donc ça, je le savais d'expérience, mais. La vie, non, c'est plutôt la question de l'identité que la question de la vie. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça m'a fait changer sur la vie, mais sur l'identité, c'est-à-dire que...
De vous ou des êtres autour de vous ?
Oh, pour les deux, mais... Tout le monde y est passé.
Mais... Je ne sais plus qui je suis.
Non, ça, je n'ai jamais été très au clair là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc, et j'ai découvert ça parce que c'était une offrande de mots qui m'a été faite à un moment de cette histoire par une amie que je croisais dans un salon du livre. Mais ce que tu vis, c'est un deuil blanc. Je savais pas ce que c'était. Tout à coup, ça m'a paru évident. Et c'est vrai, en fait, c'est d'accepter que l'autre ne soit plus celui avec qui on a construit une relation avec des accords tacites, une culture commune. Alors, moi, là, encore une fois de plus, là où j'ai de la chance, c'est que ce qui est resté avec mon père, c'est l'humour et que c'était ce qu'on avait de plus précieux, ce qu'on a de plus précieux encore ensemble. Mais il se ressemble plus tout à fait. Mais au final, mes fils non plus se ressemblent plus tout à fait de jour en jour. Et moi, est-ce qu'on est tenu de se ressembler? Et ce que je trouve fort, c'est de se dire, il y a un moment pour moi qui a été assez salvateur, c'est de me dire, mais il crée des nouvelles alliances. C'est-à-dire que cet homme-là, dans lequel moi, au début, j'ai eu du mal à reconnaître mon père, c'est devenu le chouchou des infirmières. Et elles n'ont rien à perdre, elles ont tout à gagner dans cette relation, parce qu'elles l'ont toujours connu comme ça. Elles ne savent pas qu'il ne peut plus venir me chercher à l'aéroport quand je voyage. Et que... Donc...
Bah justement. Alors que tu étudies la possibilité épique de lui mettre le nez dehors pour la première fois depuis 4 mois, Il t'assure que oui, il arrive à tenir assis dans un fauteuil. Étant donné qu'il t'affirme également qu'il fait du vélo et que ton fils fait partie de l'équipe cycliste nationale du Rwanda, tu es prise d'un doute qu'on peut qualifier de légitime. Il regarde ta moue dubitative lorsqu'entre une infirmière. L'infirmière est un ange et ses yeux sont verts. Tu la prends à témoin. Et alors qu'elle confirme qu'il peut tenir 2 heures au fauteuil, tu vois sur le visage de ton père se lever un sourire comme un soleil, franc, symétrique et édenté. Un sourire d'enfant victorieux, de solitude brisée. Tu le vois faire alliance avec l'infirmière. Comme elle lui sourit, attention, Jimmy veut lui plaire. Et tu te dis que désormais, il ne t'appartient plus. Que d'autres personnes connaissent mieux que toi cet homme-là qui n'est pas ton père. Et que ce n'est après tout pas si contre nature que ce soit elle qui s'occupe de lui. Non, ce n'est pas si incongru. Ce qui est incongru, c'est la superposition constante entre l'homme qui fut ton père et cet homme-là. C'est d'apprivoiser un mort pour recréer un lien qu'il va falloir déchirer avec les dents et pour la énième fois dans quelques semaines ou quelques mois. Ce qui est incongru finalement ne dépend que de toi. Oublie-le et aime-le encore. Laisse la vie marcoter, réagencer des circuits souterrains, laisse se déchirer les pages du livret de famille. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures. Laisse l'infirmière être sa fille ou sa mère. Laisse-toi devenir étrangère. Oui, aimez-le, vous. Vous qui n'avez connu aucun autre que lui. Vous qui n'avez rien perdu devant son regard vide. Vous qui n'avez pas connu l'homme debout et qui jamais ne l'avait attendu à la sortie de l'aéroport, alors qu'il venait vous chercher pour vous ramener chez vous après un long voyage. Vous qui n'avez qu'à le connaître pour qu'il cesse d'être étranger. Vous, indifférente, à l'endroit d'où il vient, à l'endroit où il va. Aimez-le pour moi, cet homme que vous pouvez connaître et que je ne peux pas reconnaître. Et j'aimerai votre père lorsqu'il aura cessé de l'être. Je l'aimerai pour vous. Et en vous regardant aimer cet homme-là, je garderai pour moi le lourd chagrin d'imaginer que plus jamais il ne viendra me chercher. Car j'ai eu un père, vous savez. Il était le jeune marin de la chanson d'Aznavour qui regardait les bateaux en fredonnant « Emmenez-moi ». J'étais fière de voyager pour lui. Il avait sur son téléphone une application qui lui indiquait toutes les données du vol. À défaut d'être dans l'avion lui aussi, lorsque j'atterrissais, je savais qu'il était déjà là. Enchanté de voir au-dessus de sa tête ce trafic aérien qui projetait pour lui toutes les distances possibles, les autres bouts du monde où il avait grandi, où il avait appris qu'il y a tant de façons différentes d'être humain, et pourtant, une seule façon de sourire. C'est un extrait de L'ordre des choses, Marion Muller-Collard. Peut-être pour vous questionner sur le portrait en filigrane que vous faites de votre père et de la tendresse et de l'amour qu'il y a entre vous, tendresse présente et quelques éclats de la tendresse passée. C'est aussi ça qu'il y a dans ce texte.
Oui, c'est une déclaration d'amour. C'est comme ça que je lui ai vendu d'ailleurs, parce que c'était un peu compliqué. Moi, je pensais tellement qu'il allait mourir. Enfin, on m'a tellement dit 1000 fois qu'il allait mourir que je pensais que si un jour, ce texte-là, que j'ai pas écrit au départ dans la perspective qu'il soit publié, mais que si un jour ça devenait un livre, voilà, il ne le connaîtrait pas. De fait, c'était un peu, oui, il fallait lui demander. Je lui ai dit, écoute, c'est très simple, c'est un livre dont tu es le héros, tout le monde t'adorera après l'avoir lu. Donc, ça lui a plu comme idée. Mais oui, c'est aussi de me dire, bah, en fait, il est là. Et donc, il est encore temps de lui dire tout ce que je lui dois.
Et en même temps, il est là et il n'est plus là, comme vous le dites dans ce passage-là. Comme si vous laissiez, en reprenant ce que vous disiez tout à l'heure, la proposition de tout accueillir, advenir un nouvel amour, ce serait la possibilité de ça aussi ?
Oui, et oui, sinon... Sinon, je fais un refus d'obstacle. Et les refus d'obstacle, on finit par se faire mal, voilà, par se prendre une barrière, un mur. Donc, il faut y aller et ça prend le temps que ça prend.
Ça, vous pouvez nous le dire, ça, c'est sûr, le 30 décembre sur France Culture, vaut mieux y aller. Les refus d'obstacle, on finit par se faire mal.
On
est preneuse quand même de 2-3 conseils. Si vous arrêtez pas de nous dire débrouillez-vous, soyez ambivalents.
Oui, je peux le dire, mais je ne peux pas dire pour chacun qu'est-ce que signifie passer l'obstacle et quel temps ça prend, en fait, et par quel détour, par quel détour ça va faire passer.
Notamment, vous parlez beaucoup du temps qu'il faut pour le chagrin. Vous dites qu'il faut une patience de Sioux.
Oui, ça prend beaucoup de temps, le chagrin, et c'est bien. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça qui rend dommage nos sociétés d'affolement et d'emballement permanent. Moi, je me suis emballée, en fait, dans les tâches à accomplir parce que ça m'a un peu protégée du chagrin, ou peut-être ça a permis de diluer dans le temps. Mais il faut pleurer, absolument. C'est très important. Il faut absolument pleurer autant que possible parce que, en fait, où vont les larmes qui ne coulent pas, quoi. Et c'est là où cette adresse aussi aux frères et sœurs inconnus qui filent le texte. Cette idée que, comme des petits hérissons, ils sont cachés quelque part et qu'en même temps, on est en train de vivre des chagrins dont on ne peut pas parler. Mais on est là, autour de la même table de travail, avec nos costumes d'adultes et avec notre enfant de 5 ans exactement dans le dos, là. Et c'est bien qu'il y ait des registres et des temps pour tout. Et je pense que c'est très important de pas les confondre. Et moi, ça a été très, très, très cadrant et structurant de garder un rôle où c'était pas question de s'effondrer à ce moment-là. Mais il faut trouver un endroit pour pleurer tout le temps, ouais.
Aujourd'hui, notre auditrice porte un nom vraiment miraculeux. Elle s'appelle Prudence. Et elle vous a lu. Elle vous pose une question, Marion Muller-Koller.
Bonjour le Book Club. Bonjour Marion Muller-Koller. Alors j'ai lu L'Ordre des Choses et ça a été un vrai coup de cœur, ou plutôt un vrai coup de poing. Votre écriture est très très franche, très sincère, et moi c'est ça qui m'a énormément touchée. Et moi j'ai été particulièrement marquée par votre manière de raconter votre positionnement, ou plutôt le fait que vous êtes un peu paumé dans votre positionnement dans ce livre. Comment on fait pour pouvoir tenir droit, même quand soi-même on a besoin de réconfort? Ça m'a vraiment secouée de voir des mots posés sur cette réalité-là. Et comme vous écrivez aussi pour tous les gens qui vivent cette expérience, je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs ou des retours de frères et sœurs, on va dire, d'épreuves par rapport à votre livre? Est-ce que vous savez si ça les a aidés? Un grand merci pour votre réponse.
Merci beaucoup Prudence pour cette lecture et pour cette question.
Oui, alors oui, merci Prudence. Bah oui, les petits hérissons là, à qui je mettais un bol de lait au milieu du jardin pour voir s'ils sortaient, ben ils sortent, ouais, ils sortent, et ça c'est très très touchant de les voir venir me dire, c'est pour moi que vous avez écrit, et donc ça recrée, cette reconnaissance en fait, cette rencontre par juste les mots, ces mots qui sont là. Comme des pionniers, en fait, pour baliser un chemin, rendre habitable les terres les plus hostiles et les expériences les plus hostiles de nos vies intimes. Donc oui, je les rencontre maintenant. Et maintenant, je les vois sortir et venir me rencontrer. Et ça, c'est toujours très, très touchant.
Ouais. Et qu'est-ce que ça produit, justement, dans l'expérience humaine, puisqu'on a commencé par parler de votre rapport au langage, Marion Muller-Koller, et votre rapport au texte? Qu'est-ce que ça produit, ce dont témoigne Prudence, que d'autres aient mis des mots sur un chemin qu'ils ont traversé ou qu'ils sont en train de traverser, un chemin douloureux, un chemin de chagrin, un chemin d'inquiétude? Pourquoi ça fait quelque chose?
Eh ben, c'est une vraie grande question, Marie, ça. Parce que, en fait, pourquoi? Oui, pourquoi ça fait quelque chose? Ce qui est fou, c'est qu'on pourrait penser que les mots ne font rien.
Vous témoignez que ça vous fait quelque
chose.
Mais
oui, et c'était vraiment, c'est que les mots font la différence. Et c'est ce que je dis à un moment donné, c'est une sorcellerie qui guidera toute ma vie. C'est les mots font la différence. Et au sens propre aussi du terme, ils font la différence, ils fondent la différence. Oui. Mais c'est vrai que c'est le mot, du moment qu'il existe un mot pour dire quelque chose, ça veut dire que l'expérience se vit, en fait. Sinon, il n'y aurait pas de mot pour le dire. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, les mots, c'est ces petits drapeaux. Quand on va sur la Lune, on voit un drapeau, on dit, tiens, quelqu'un est déjà venu là. Et quand il y a un mot pour dire, par exemple, deuil blanc...
On sort de l'invivable, quoi.
On rentre dans la communauté humaine. Puisque un autre humain a trouvé un mot pour le dire, ça veut dire que cette chose peut se vivre, puisque lui, il l'a vécu.
À tout le moins, ça peut se dire, ce qui n'est pas forcément... Ouais.
Si, se vivre aussi, voilà. Se vivre peut-être tordu de douleur, mais se vivre, puisque pour parler, il faut vivre.
Le boucle continue. À cette heure-ci, dans le Book Club, on parle littérature jeunesse et avec vous, Raphaël Bott. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Vous nous emmenez au pied des montagnes, c'est le titre de cet ouvrage, à l'épaisseur d'un roman et aux illustrations d'un album.
Alors, des sapins verts, une frise de fleurs, au rouge bien vif et une silhouette d'enfant stylisée portant une cape de ce même rouge éclatant. Sur la tête, un chapeau pointu, un triangle bleu qui mord sur le titre du livre, au pied des montagnes. Au premier regard, cette couverture nous plonge dans ce petit air de fête duquel nous ne sommes pas encore complètement sortis. Et pourtant, si je vous lis le début de la quatrième de couverture, vous allez peut-être écarquiller les yeux. Kousma court, elle cavale à travers la montagne et les forêts pour échapper aux milices, à la guerre.
Il y a un petit décalage en effet.
Ben dans ce pays lointain, le parallélogramme, vivaient différents peuples. Les carrés, les triangles, les hexagones, les pentagones. Mais alors que la vie devient plus dure, que la pauvreté gronde, ils élisent un nouveau chef. Vous savez Marie, le genre de chef qui prétend tout régler, mais qui explique surtout que c'est à cause de quelques-uns. Donc le boucher, puisque c'est ainsi que s'appelle ce nouveau chef, décide de mettre les triangles à part. L'histoire se resserre autour de Kousma, une jeune triangle. L'atmosphère est de plus en plus oppressante pour elle et les siens. Le texte, avec sa belle typographie bleu marine, ne tait rien, ni les humiliations, ni les méthodes de propagande. La mise en page joue avec les slogans, les phrases qui frappent, qui heurtent. Tu es une enfant, tu comprendras quand tu seras grande. Voilà pourquoi il faut faire du nettoyage. Même à l'école, ça change.
Tout commençait comme dans un conte, Raphaël, et on sent qu'on quitte bien vite la légèreté avec ce livre-là.
Alors on la quitte un peu, mais pas complètement. D'abord, il y a le parti pris de Fanny Dreyer, l'illustratrice. Elle a choisi une économie de moyens et s'appuie sur la force des couleurs primaires et celle des formes géométriques qui peuplent cette histoire. L'ensemble est stylisé, énergique et en même temps, l'apparence délicate et joyeuse des enfants, des sortes de lutins, toujours chapeautés selon leur peuple d'origine, apporte de la gaieté, de la douceur. Il y a aussi ces frises de fleurs, de branchages aux allures folkloriques qui reviennent régulièrement. Pour créer cet univers, Fanny Dreyer s'est notamment inspirée du travail de la très grande illustratrice d'origine russe, Nathalie Parrin. Ce décalage graphique est à l'image du texte. Il nous parle de guerre, de dictateur, de fuite. Mais il nous parle aussi de sœurs imaginaires, de pierres qui parlent, de fous rires, de résistants cachés dans les arbres.
Donc ce livre prend des allures de fable politique, on pourrait dire. Comment les autrices parviennent-elles à ne pas être trop lourdes avec un tel sujet?
C'est vrai que le joli livre pour enfants qui leur explique la mise en place d'une dictature, d'une guerre, l'ampleur du sujet, la volonté d'en faire un peu de poésie, ça pourrait être embarrassant et ce n'est absolument pas le cas. Il y a quelque chose de l'ordre du petit miracle à aborder avec autant de panache la gravité. Les autrices ne se privent ni d'humour, ni de candeur, avec un certain art de la métaphore.
C'est-à-dire ?
Eh bien, ce qui pourrait être aussi très pesant, la métaphore très appuyée, ne l'est pas non plus. L'un de mes passages préférés est celui où Kousma se baisse pour attraper une pierre et faire des ricochets avec sa grande sœur imaginaire. La pierre se met à hurler. « Non, s'il te plaît, je déteste l'eau froide !» Il explique alors que son métier était de donner des cartes d'identité et de signaler les triangles. Il l'a fait consciencieusement, sans se poser de questions. Et une nuit, il a eu l'impression d'étouffer, il est sorti dans son jardin et il s'est transformé en pierre. Une double page montre ensuite des gens au dos courbé sous la montagne. Ils sont devenus la roche à force de ne pas réagir. Ce livre parle de la montée du nationalisme, met en scène sans détour un pays qui va vers le fascisme. Il raconte aussi comment des enfants se rebellent avec leurs armes, leur force.
Et il se trouve par ailleurs que ce livre est le fruit d'un travail coopératif sur plusieurs années. C'est peut-être pas étranger à la subtilité que vous soulignez, Raphaël.
C'est en tous les cas ce que je me suis dit en découvrant qu'il avait été, et qu'il est toujours, un spectacle de théâtre créé en 2020. Les autrices sont toutes les deux comédiennes. Elles ont écrit ce texte pour la scène. L'illustratrice a participé à la scénographie. Ses mots ont été éprouvés, malaxés, sur un plateau, devant un public. Il a fait rire, il a fait trembler. Et peut-être que cela participe à cette densité qui permet d'affronter ces sujets avec tant de justesse.
Et de justice aussi, ouais. Adapté du théâtre, donc, ce livre est aussi accompagné d'une fiction sonore avec un QR code qu'on peut lire donc et écouter. Au pied des montagnes de Gwendoline Gauthier, Sarah Hepburn et Fanny Dreyer est édité par la maison d'édition belge Versant Sud. Toutes les références sont à retrouver sur le site de la chronique Lecture Jeunesse. Merci beaucoup, Raphaël Bott. On peut aussi aller écouter sur l'appli Radio France. Vous diriez que c'est vers quel âge à peu près?
Vers 6-7 ans.
Ok, merci beaucoup. À cette heure-ci, Marion Muller-Collard, on joue toujours à un jeu dans le Book Club. C'est le grand jeu des pages musicales. On s'amuse à chercher de la musique dans les textes. Donc, on a été assez servi dans le vôtre. Je ne sais pas si on a entendu tout à l'heure dans l'extrait que j'ai lu, mais je me suis arrêtée pour dire un peu plus subtilement un passage en italique parce que c'était un extrait de chanson. À la fin, vous nous faites même figurer une playlist de ce livre-là. Quel rôle jouent ces chansons du répertoire plutôt chansons françaises populaires dans votre livre?
Moi, ma vie, c'est une grande comédie musicale. J'ai toujours une chanson en tête. Et puis, ce que je dis de mon père aussi, c'est que c'est quelqu'un qui sifflait tout le temps, le pape oiseau. Et donc, très vite, quand je suis en train d'écrire, il y a des bribes comme ça de textes qui me reviennent. Et les chansons, en fait, c'est ce qu'on retient le mieux parce qu'il y a ce support mélodique. En fait, c'est plus facile à retenir qu'une poésie. Donc voilà, ça s'est immiscé naturellement comme ça dans ce texte-là. C'est pas toujours, mais voilà.
On se quitte avec un extrait, dernier extrait de votre texte, L'ordre des choses, et il y a une chanson à la fin. À l'école, tu fais des lignes d'une seule lettre. Mais ici, à ras de sol, tu es libre, tu t'élances, tu associes. Tu produis des boucles qui produisent des sons que tu entends et que tu murmures très lentement. Tu ne sais plus quoi de ta bouche, de tes oreilles ou de tes doigts, écrit. Tu confies à ton père ce talisman, cette page qui était blanche et qui désormais porte comme un plateau, comme sur un plateau, ta toute première phrase. Puis ton père, comme un prêtre en plein rituel, s'approche du miroir et lui confie tous tes efforts. En un reflet, il rendra ton écriture de gauchère déchiffrable, te rendra au monde commun. En même temps qu'il te déchiffre, il te met au monde une seconde fois. Il te sauve la vie. Il atteste que ce que tu veux dire peut vouloir dire quelque chose pour un autre que toi, dans un miroir. C'est encore là que tu écris aujourd'hui, sur ce papier de fortune que tu glisses dans une bouteille à la mer, à ses frères et sœurs inconnus. Tu sais qu'ils sont à côté de toi, au restaurant, dans la rue, dans le tram, à côté de toi dans le drame. Mais pour vous reconnaître, il faudrait un miroir. En te promenant dans la petite ville dromoise de son enfance, une rue perpendiculaire à ton chemin hasardeux te happe. Somnambule, tu t'y engouffres. Tu tombes sur les grilles de l'école. Sur le très vieux préau s'effacent très lentement les traits de pinceaux multicolores qui dessinent la marelle qui te donnait enfant l'accès au ciel. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets les pieds.
Tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets les pieds.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar, perdendo o pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular, cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel.
Amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante no umbigo, cuidado pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro é uma lagoa e ela que eu vou me banhar.
Merci beaucoup, Marion Muller-Collard, d'avoir été avec nous pour évoquer L'ordre des choses, votre récit paru aux éditions Sabine Vespizer, éditeur. Au son aujourd'hui, c'était Éric Perruchot-Triboulet. À la réalisation, Anna Holweck. Un grand merci à Luque Vauvillier, Noé Margas, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Garance Roubieux et Alexandra Laibegovitch, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.